タラッタッタッタッタララタラッタッタッタッタララタラッタッタッタッタララタタララタラタラタラタッタ。
Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode,
ou plutôt un nouveau chapitre,
de notre podcast Le Thé Livresque.
Le Thé Livresque, c'est Lola et Eileen, deux lectrices passionnées qui vous parlent bouquins toutes les deux semaines
et partagent avec vous critiques, coups de cœur et actualités croustillantes.
Histoire de préparer le Thé Livresque le plus chaud de France,
vous retrouverez aussi lors de chaque épisode le Smart Tea.
La chronique spécialisée de Sarah et qui est Smarties,
c'est moi,
la journaliste de l'équipe.
Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard,
chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté.
Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi.
Hello tout le monde.
Et bienvenue dans un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Thé Livresque.
Nous sommes à deux cette fois et ce n'est pas Eileen et Lola.
Mais
c'est Sarah et Lola.
Est-ce que c'est pas la première fois que c'est juste nous deux?
Non, si, c'est la toute première fois.
On vit un moment historique dans le podcast. Il n'est pas dans l'épisode. On est désolé pour les petites semaines avec un grand S de retard, mais la maladie nous a vraiment mis KO. Je suis toujours malade. J'ai d'ailleurs rendez-vous chez le médecin à 17h après deux semaines parce que je n'en peux plus d'avoir les ganglions en feu en permanence. Donc voilà, sachez qu'on a fait le max, mais du coup on est ravis de vous retrouver pour vous parler de nos super lectures de du coup janvier, février et mars. Et ça tombe bien parce qu'on est le 5 avril au moment de l'enregistrement, donc on est pile poil dans les temps.
Exactement. En plus, 3 mois de lecture, moi j'ai bien lu. Hein. Franchement, j'ai bien lu pendant ce premier trimestre.
Ouais, moi je crois que je suis à 25, entre 25 et 28, je crois, un truc comme ça.
Moi, j'ai compté, en roman, je suis à 24 et en graphique, je suis à 44.
Et non, mais toi, t'es... En fait, je pense que les deux combinés, on est quasiment à mon objectif annuel, là, de ce que tu t'es chauffé. Après, moi, j'ai lu beaucoup. Pour atteindre ce chiffre-là, il y a beaucoup de graphiques.
J'allais dire, il y a beaucoup de monsieur, madame.
Non, j'en ai pas mis, ok. En revanche, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est vrai qu'avec Smarty, cette année, on a la chance d'être partenaire des... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment partenariat, ils n'ont pas appelé ça un peu être partenariat, mais ils nous ont mis en tout cas Dupuy dans leur liste de partenaires presse, quoi, service presse. Et du coup, c'est vrai que bah, grâce à ça, mine de rien, en plus, moi, j'ai été prise chez Jungle, parce que j'avais candidaté. T'as été prise chez... Voilà, on est toutes les deux chez Jungle. Ouais, donc, autant vous dire que c'est vrai qu'on a pas mal de réceptions... graphique, ouais. Et du coup, bah, et puis toi en plus, t'as Dargo aussi, non?
Non, j'ai Draco.
Ah oui, Draco, ouais, en plus,
ouais.
Ça fait mine de rien pas mal de trucs. Et puis entre celle que je pique à Sarah sans savoir que c'est à Sarah parce qu'elle l'a prêté à Eileen, et en fait, Eileen me l'a prêté, et du coup, je suis pas contente parce que j'ai lu son livre.
Et je vous jure, vraiment, je sais plus, t'avais fait une story, et j'étais là, je fais, mais c'est pas ma BD, t'es gros.
Quid? Comment elle s'est retrouvée là? Voilà, c'est la faute à Eileen. Moi, j'ai tout remis sur Eileen. Bon, bah, du coup, il y a un sujet par contre. Moi, premier trimestre, j'ai lu littéralement Rendez-vous avec le danger, Rendez-vous avec la ruse, Rendez-vous avec le diable. Est-ce qu'on se dit qu'on en parle?
J'avoue, on a déjà fait beaucoup sur les détectives du Yorkshire. Donc.
Je pense que je les ai lus et il faut que vous sachiez que ma meilleure lecture de février, c'est Rendez-vous avec la ruse. Et ma meilleure lecture de mars, c'est Rendez-vous avec le diable. Autant vous dire que c'est encore des bangers. Voilà. S'il y a juste un mot à retenir, c'est qu'aucun tome n'est décevant, globalement. C'est toujours trop bien et on vous recommande toujours autant de les lire parce que là, maintenant, on est dans l'attente du tome 9.
Bah, en fait, le tome 9 est déjà sorti, mais nous, on attend l'audio et on a demandé à la bête noire, du coup, l'éditeur qui fait les détectives du Yorkshire, et ils nous ont dit que c'était pas encore maintenant l'audio, mais qu'ils y pensaient, et du coup je suis là en mode genre, mais moi j'attends tellement cet audio du tome 9.
Ouais, je sais pas combien de temps je vais attendre, à tout moment si je finis ma balle assez vite, je me dis tant pis.
Là, tu le lis en papier.
Ouais, mais je vais voir, parce que ma soeur de toute façon va l'acheter, donc je me dis au pire elle me le prête et je pourrais le lire, mais on verra quoi. Mais du coup, allons-y, commençons. Ah mais non, mais je suis une malade, j'ai Rendez-vous avec la menace, en fait j'en ai lu 4 en 3 mois, j'ai lu toute la fin. Bon bref, c'est pas grave. Je te laisse commencer avec tes lectures de janvier.
Moi j'ai lu L'Assassin Royal. Alors, il faut savoir que c'est quand même une énorme, énorme saga parce qu'il y a 36 tomes.
36 ? J'allais dire, ouais, il doit y avoir 14 tomes. En fait,
non, en fait, le truc, c'est que, bon, déjà, je le fais dans le cadre du book club que j'ai avec, avec Zozo, Morgane et Amanda. Et Amanda s'occupe de cette partie Robin Hobb, qui est l'autrice. Et oui, c'est une femme et pas un homme. Parce que tout le monde pense que c'est un homme, mais pas du tout. Ouais. Et c'est une très vieille saga, parce que le tome 1, il est sorti en VO en 95. Genre, la saga à mon âge. Littéralement, la saga à mon âge. Et en fait, il y a plusieurs cycles. Donc, il y a le premier cycle de l'Assassin Royal. Ensuite, il y a le cycle des Aventuriers de la Mer. Ensuite, il y a le deuxième cycle de l'Assassin Royal. Et après, il me semble que c'est le troisième cycle de l'Assassin Royal. Et après, c'est terminé. Mais il y a aussi 36 tomes en français. Il y en a moins en VO parce que, tu sais, l'édition française aime trop découper les tomes.
Ouais. Ils aiment trop se faire mou, là, sur nous.
Et en fait, ils ont fait ça avec... le premier cycle, en soi, c'est une trilogie. Mais en français, c'est 6 tomes.
Ah ouais.
Donc, tu vois, genre, le tome 1 correspond au tome 1 VO. Les tomes 2 et 3 correspondent au tome 2 VO. Et les tomes 4, 5, 6 correspondent au tome 3 VO.
Ah ouais, ok.
Et moi, là, je suis au tome 5, du coup, français. Donc, j'ai bientôt fini le premier cycle de Assassin Royal. Et vraiment, c'est une saga que je kiffe trop. Je suis très au courant que ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que, aussi, ce qu'on propose sur le podcast, c'est aussi ce que je propose sur mon Booksta et tout. C'est vrai que j'ai beaucoup de lectures fantasy young adulte. Là, on est sur de l'adulte. Et c'est vraiment genre fantasy épique, médiévale, c'est assez lent à démarrer et tout. Je pourrais vraiment le comparer à Game of Thrones, dans le sens où tu as vraiment une intrigue, tu vois, qui met assez de temps à démarrer. Et en fait, on suit un personnage qui s'appelle Fitz. On le suit de ses 6 ans. Donc vraiment, tu commences, il a 6 ans. Donc c'est assez déroutant.
Ouais.
Et tu vas le suivre pendant des décennies et des décennies. Et en fait, c'est un bâtard qui va être amené au château de Castle Serre, où on va lui dire, en fait, on ne peut plus s'occuper de toi. Donc, tu vas au château. Et puis, il va être pris par différentes personnes. Il va être éduqué par différentes personnes en tant que bâtard. Mais il va finir par devenir apprenti assassin. Et c'est vraiment le cas dans le tome 1 où il devient apprenti assassin et il œuvre vraiment dans l'ombre, etc. Et il y a énormément de complots politiques, il y a énormément d'intrigues de cour, il y a aussi une magie, mais qui n'est pas extrêmement développée comme dans la plupart des fantaisies. Il y a ce qu'on appelle l'art, où en fait, quand ils artisent, c'est de la manipulation de l'esprit.
Okay.
Et après, il y a le vif, qui est le fait de pouvoir communiquer en fait avec les animaux, sauf que avoir le vif, c'est très 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 mal vu, parce qu'en fait, quand tu communiques avec les animaux, tu peux te perdre totalement et devenir une bête et ne plus être un homme. Donc en fait, c'est super mal vu, et Fitz, il s'avère qu'il arrive à faire les deux, et il va se lier avec différents animaux et tout. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais c'est vrai que c'est assez palpitant, et c'est vraiment une épopée. Parce que, en fait, comme tu le suis depuis qu'il est gamin, jusqu'à je sais pas quand, et en plus, il y a un truc dans la narration où déjà, c'est à la première personne. Alors moi, j'étais très étonnée pour de la fantasy adulte, que ce soit la première personne. Et en plus, en fait, ça commence par un Fitz âgé, comme s'il racontait son histoire.
Ça va bien.
Et en fait, à chaque début de chapitre, tu as des paragraphes où en fait ça te contextualise un petit peu le monde, la magie, etc. Mais en fait, comme si on te racontait une histoire, et après, hop, tu reprends là où tu étais dans l'intrigue. Et franchement, c'est assez stylé. Bon, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Faut s'accrocher un petit peu. Je sais qu'il y en a plein qui sont très avancés dans la saga et qui ont dit, mais en fait, les Aventuriers de la Mer, du coup, le deuxième cycle. Après l'Assassin Royal, c'est beaucoup plus palpitant parce que c'est un truc. Enfin, t'as un truc avec des pirates et tout, donc c'est vrai que t'attends en fait que cette intrigue elle commence parce que c'est comme les Marcheurs Blancs avec Game of Thrones, tu vois.
Ouais.
Où t'attends tellement, genre Winter is coming, mais tu attends le Winter, vraiment, tu n'attends que ça dans Game of Thrones. Et là, c'est un petit peu pareil, mais c'est vrai qu'il y a un truc, en fait, où tu t'attaches énormément à Fitz, parce que déjà, c'est de son point de vue pendant toute la saga. Alors, pas dans les Aventuriers de la Mer, parce que tu suis d'autres personnages, il me semble. Mais tu as vraiment ce truc où tu t'attaches énormément à lui parce que tu le suis depuis qu'il est super jeune. Et en plus, il lui arrive plein de trucs, quoi. Il se lie avec 15 000 personnages. Il lui arrive que des malheurs. Là, moi, je suis au tome 5. Mais vraiment, mais il souffre, le gars. Mais genre, vraiment, il souffre. Et j'étais en mode... Le tome 4 s'appelle Le Poison de la Vengeance. J'étais en mode, mon gars, il va falloir te venger. Vraiment, il va falloir te venger, absolument. Et bon, il y a des petites histoires d'amour, etc. Et c'est vraiment top. Et je trouve l'univers incroyablement fait. Assez, enfin, c'est pas super complexe, mais c'est incroyablement fait. Et puis il y a un truc assez particulier, c'est par exemple, tu vois, dans la noblesse, les personnages ont des noms de vertus. Et ça, je trouve ça assez stylé. Genre, par exemple, t'en as une, elle s'appelle Dame Patience. Il y en a un qui s'appelle Royal. Le roi, il s'appelle le roi subtil. Je trouve ça.
Mais en fait, je trouve que dans Fantasy, on cherche trop à vouloir absolument des trucs hyper complexes. Tu sais, des intrigues qui sont tirées par les cheveux. Je parlais de la passe miroir parce que c'est une des intrigues, je trouve, qui est les plus. Quand ouais. Tu vois tout l'intrigue autour de Dieu, etc., c'est. C'est waouh. Tu l'oublies à la fin d'avoir tourné le tome. Je pense que on n'a pas besoin d'intrigues complexes. Pour que ce soit hyper qualitatif, je pense qu'il faut juste que ce soit riche en fantasy et plein de petites choses comme tu me dis là, tu vois, le fait de penser à la noblesse effectivement à mettre des vertus, je trouve que c'est hyper smart. C'est plein de petits détails comme ça qui font que tu vas aimer un univers parce qu'il est juste riche et qu'il est pensé dans tous les sens du terme. Et même si on n'a pas trop envie de parler de J.K. Rowling parce qu'on sait pourquoi, Harry Potter, il n'est pas complexe l'univers. Mais il est très riche, elle a été jusqu'à écrire
des livres
qu'ils lisent dans le roman, tu vois, elle a développé cette richesse autour de ça, et c'est ça qui fait que les gens ont autant accroché, je pense.
Non, ouais, de ouf, c'est ça. Et je trouve que, en fait, il y a un truc avec la plume de Robin Hobb, c'est qu'elle est vraiment très fluide. Ce qui fait que tu accroches. Alors bon, il y en a malheureusement qui ont, nous dans nos essais, qui ont abandonné, ce que je peux comprendre parce que ça convient pas à tout le monde, mais en vrai, t'as un truc qui est. Elle te perd pas, quoi. Ouais. En fait, tu restes accroché pendant tout le truc. Et surtout, en plus, il y a un truc qui est un peu chiant. Et mon chat qui a voulu sortir. Il y a un truc qui est un petit peu chiant, c'est que les chapitres sont méga longs. Ah, mais ouais. Vraiment. Moi, en fait, je le fais en audio français. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous vous lancez dans cette saga, faites-la en audio. Parce que vraiment, en papier, je pense que je n'aurais jamais terminé. Et là, en audio, tu sais, genre, je fais des trucs à côté et je ne suis pas du tout perdue, quoi. Ouais. Mais genre un chapitre, ça fait plus d'une heure en audio.
Ah ouais, c'est rude.
Ah, donc du coup, t'es là un peu genre, bon, 400 pages pour 12 chapitres, c'est un peu beaucoup.
Ouais.
Mais voilà, mais en fait, je pense que ça va durer toute l'année. Donc à mon avis, je vais vous en reparler encore. Je suis bientôt à la fin du premier cycle.
RDV aux lectures du second trimestre pour voir.
C'est ouf.
Moi, du coup, ma première lecture de janvier, ça a été un Cottage pour deux de Josie Silver qui est publié chez Charleston. J'avais déjà lu un roman d'elle dont je vous avais certainement parlé, c'était Les deux vies de Lydia Bird, qui m'avait beaucoup marquée. C'était très triste, c'est quand même une femme qui était mariée ou fiancée et qui perd son mari du jour au lendemain et qui en fait commence à le voir dans son sommeil grâce aux médicaments. Et en fait, il y a tout un truc sur le deuil et tout qui était très lourd et très touchant. Et en fait, un Cottage pour deux, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à une petite. Alors que pas du tout, enfin, du coup, en lisant le premier tome, je ne sais pas pourquoi j'ai cru, mais je m'attendais à une vraie rom-com avec un petit trope small town, one bed trope, parce que c'est l'histoire d'une nana de Mac et de Cléo qui se retrouvent sur une île. Et en fait, ils ont tous les deux loué la même maison. Et en fait, ils sont bloqués puisqu'il n'y a pas d'autre logement et ils ne peuvent pas partir de l'île parce que c'est une île perdue où il y a un bateau toutes les une semaine, quoi. Donc, ils sont obligés de partager l'endroit, tu vois. Moi, je me suis dit, ah, petit fond de romance de Noël, one bed trope et tout, small town et tout. Mais en fait, c'était tellement plus profond que ça. Genre vraiment, c'était tellement plus que ça. Genre, il y a un chapitre vraiment qui m'a brisé le cœur. Genre, j'étais en larmes quand je l'ai lu. Faut savoir que jusqu'à genre 91% du bouquin, je ne savais pas comment ça allait finir. C'est-à-dire que tu ne sais pas si ça va finir en mode « Ouh, happy ending, romance » ou genre « pas de romance ». Tu ne sais pas. Genre, je trouve que le suspense, il était à son comble. J'étais en mode « c'est simple, dans les 15 prochaines pages, tout va se jouer, je vais détester ce putain de bouquin ou je vais l'adorer ». Non, même pas, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu l'aimes parce qu'en fait, justement, cette espèce de leur relation est tellement sérieuse qu'en fait, peu importe la façon dont se termine leur relation, c'est trop beau, genre c'est juste tellement beau. Et tu sais moi comment je suis, moi j'ai beau aimer les fins heureuses, j'aime trop les fins qui me brisent le cœur mais qui sont belles. Et en fait, peu importe, je sais que Josie Silver, peu importe le choix qu'elle fait dans celui-là, qu'elle même, je ne vais pas dire le choix qu'elle a fait, mais par rapport au choix qu'elle aurait fait, les deux me conviennent parce que je trouve que c'est, quoi qu'il arrive, c'est rempli de beauté. Et Max, c'est un personnage qui m'a énormément touchée. Pour une fois, j'ai été plus touchée par le... C'est assez rare que je sois plus touchée par le personnage masculin, moi, que féminin.
Et ouais, souvent, moi aussi.
On a aussi souvent les points de vue des personnages féminins. Quand on a le double POV, là on a un double point de vue et on a celui de Mac. Et Mac, c'est vraiment un homme genre qui a tout fait pour son mariage, et son mariage bat de l'aile. Sa femme, en fait, elle a rencontré quelqu'un, ils sont potentiellement sur un truc de divorce et tout. Et c'est trop dur, en fait, dans sa tête. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était construire sa vie, rester avec sa femme, ses enfants, il les aime trop et tout. Et c'est là où tu te dis aussi comment elle va réussir à amener cette romance, parce que waouh, le man, il semble vraiment in love de sa femme, quoi. Donc ça va être un peu chaud. Et en fait, elle arrive à le faire superbement bien. Donc moi, j'ai trop aimé, j'ai été trop surprise de la fin, je ne m'y attendais pas du tout, j'ai trouvé hyper bien écrite, j'ai été hyper émue, voilà. C'est franchement, je lui ai noté 4,25 sur 5, je sais, franchement, a posteriori, je ne sais même pas pourquoi potentiellement, j'ai pas mis 5 sur 5 parce que je n'ai pas eu des papillons et j'ai mis quelques chapitres à être dedans. C'est vrai que moi, quand il y a une romance, si je n'ai pas de papillons dans le ventre, tout de suite, ouais. J'enlève au moins genre 0,5. Genre, il faut que je ressente un petit truc.
C'est quoi, voilà, le titre ?
C'était Un cottage pour deux, de Josie Silver. Et si jamais tu voudrais le lire à un de ces quatre, je l'ai en papier, donc je pourrais te le prêter. Mmh. Et après, j'ai lu beaucoup de graphiques quand même en janvier. Et je crois qu'on a lu tout ensemble. Ah bah, du coup, j'ai lu Je suis leur silence, que tu as lu.
Ah oui, j'ai lu, oui.
Tokyo Mystery Café, Le monde des cancres, que tu as lu aussi.
J'ai lu aussi, ouais.
Et La commode au tiroir de couleurs.
J'ai pas lu. D'Olivia Ruiz.
Ouais. Ouais. Alors, ça, mon pote, il était tout le temps. Je sais plus qui m'a dit tu vas pleurer, ou je sais plus quoi. On m'a dit prépare les mouchoirs. Et j'étais en mode genre ouais, on verra. Tu vois, je sais plus qui fait ça. Et ouais, j'ai pleuré. Genre, j'ai pleuré sale. J'ai pleuré sale. Mais j'ai pleuré sale parce qu'il y a eu un sujet autour de la maternité et des enfants. Et en fait, depuis que je suis une grosse daronne, autant vous dire que j'ai plus aucune limite. Les larmes viennent toutes seules. En fait, c'est ouf parce que quand tu le vis pas, en fait, ça, c'était des trucs qui me touchaient pas de ouf. Genre, et maintenant que je suis. En fait, forcément, il y a une espèce d'empathie. Tu te projettes.
Mais bien sûr, ouais.
Et du coup, ça a fait que ça change toutes mes lectures à ce niveau-là. Donc, moi, ça a été un énorme coup de cœur. Mais. On peut discuter des petits « Je suis leur silence », Tokyo Mystery Café et Le monde des cancres, nos petites lectures graphiques qui étaient...
On a aussi lu ensemble, il n'y a pas très longtemps, « Les yeux fermés ».
Et « Les yeux fermés », ouais, « Les yeux fermés ».« Les yeux fermés ». C'était franchement des bonnes lectures. Je crois que je les aurais toutes mis au moins minimum 3, voire 4 à certaines.
Ouais.
Ouais. Moi, j'ai mis des bonnes notes. Les yeux fermés, bon, trigger warning, inceste, pédophilie.
Mm. Sachant que ça se base en plus sur une histoire vraie, puisque c'est l'actrice Héloïse Martin qui raconte son histoire, mais elle le raconte d'une manière assez fictive, où la base est sa propre histoire, mais elle a complètement remodelé les discussions, etc. Mais en fait, on est... Enfin, c'est une jeune femme qui rentre chez ses grands-parents pour fêter leur anniversaire de mariage. Et en fait, il y a toute la famille et elle va se retrouver face à face avec son violeur, qui est une personne de sa famille, du coup. Et en fait, ce qui est particulier dans cette BD, c'est que jusqu'à la fin, tu ne sais pas qui l'a violée.
Ouais.
Tu ne sais absolument pas qui. Tu sais qu'il s'est passé un truc, mais ouais, il y a tout un...
C'était vraiment très touchant, mais j'ai trouvé que malgré le fait que ce soit du coup graphique, donc on ait quand même des images, c'était pas dur visuellement. En fait, j'ai trouvé
c'était
que
super pudique.
Ouais, c'était très pudique, très subtil. Il y a un vrai travail autour un peu de cette espèce de monstre sous le lit, d'ombre un peu en fait. C'est comme ça qu'un peu c'est présenté. Et je trouve que ça permet effectivement de maintenir quand même justement la pudeur des personnages et de cette femme à travers cette expérience. Mais moi, il m'a... En fait, c'est un truc qui est... C'est pas un petit truc happy end, machin. En fait, c'est une vraie life, c'est sa vraie histoire.
Ouais.
Tu vois qu'en fait, t'es dans sa vie et tu te dis, ah ouais, c'est ça la réalité des choses. Et c'est comme ça que sa famille l'a perçu, l'a pris. Et je trouve que tu termines ce bouquin et t'es révoltée, quoi. J'avais envie de retrouver toute sa vie et d'aller bousiller, brûler leur maison. Vraiment, brûler leur maison.
Je pense que celle qui m'a le plus vénère, c'était la grand-mère.
La grand-mère, mais elle est...
La grand-mère, elle est horrible.
ignoble. Il y a un passage là, oui, à mon époque, ça se faisait aussi, mais on n'en faisait pas tout un plat. Mais j'ai cru, vraiment, je voulais balancer le bouquin par la fenêtre. Je ne l'ai pas fait, mais j'étais à ça. Après, je trouve que voilà, l'histoire m'a beaucoup touchée. Elle, en tout cas, son personnage m'a beaucoup touchée. Mais les dessins m'avaient juste un peu perturbée, parce que je trouvais que parfois, les personnages masculins, on les mélangeait un peu. Alors, est-ce que c'était fait exprès parce que, justement, ils voulaient garder le mystère sur qui, de quoi, comment? Je ne sais pas.
Ouais, c'est vrai. Un
petit truc qui m'a un peu dérangée, de me perdre un peu, mais c'est qui lui et lui c'est qui, genre, j'arrive pas à me repérer dans les personnages masculins, ça m'a un peu perdue.
Ouais, mais en tout cas, enfin, on vous conseille vraiment cette BD, enfin, si vous êtes apte à la lire, sachant que, comme on vous l'a dit, bon, il y a un trigger warning, puisque le sujet en lui-même n'est pas plaisant, mais en tout cas, enfin, je trouve que ça se lit quand même assez facilement, bizarrement.
Ouais.
Même si on est révolté et tout, et puis à la fin, moi je pense que c'est vraiment le message de fin qui m'a... Ouais. Voilà, je me suis dit genre, ah ok. Je pense que j'ai lâché quelques larmes à la fin.
Ouais, quand la note écrite, ce qu'elle a rajouté,
ouais.
Celle-là, je pouvais crever. Vraiment, c'était trop beau. Genre, c'était trop beau et j'avais envie de le serrer dans la main. Merci pour tout ce que t'as fait. Non, c'était vraiment trop beau. Ensuite, on a lu donc du coup Tokyo Mystery Café.
Moi, je ne l'ai pas lu celui-là.
Ah, tu ne l'as pas lu ?
Non.
Moi, j'ai trouvé ça très cool. Je lui ai donné 4 étoiles. C'est pas un truc qui m'a transcendé. Mais c'est une histoire un peu de petit mec qui débarque à Tokyo, qui veut être mangaka. C'est ça qu'on dit, hein ? Le mec qui dessine des mangas, c'est des mangaka ?
Non. Exactement.
C'est un mangaka. Donc, en fait, il va à Tokyo et en fait, il se retrouve malgré lui pris dans une enquête. Assez particulière avec des sortes de robotique et tout, genre de clonage un peu chelou et tout. J'étais pas du tout prête pour ce genre d'ambiance un peu robotique, tu sais. Et moi, j'aime pas du tout ça. Et pourtant, ça a super bien fonctionné, notamment parce que la palette de couleurs et les dessins, j'ai trouvé magnifique. Moi, ces teintes un peu de bleu, de violet comme ça, à chaque fois, je le peux d'aide. Enfin, c'est vraiment un truc qui me parle. Donc, c'était cool, c'était pas transcendant. Par contre, j'ai beaucoup aimé le côté un peu fin de family, genre il rencontre plein de gens, ça devient un petit groupe un peu qui va enquêter ensemble, qui du coup il est plus seul au monde, il rencontre un peu une micro-famille. Bon, voilà. J'ai trouvé ça sympa et voilà. Maintenant, on peut passer à Je suis leur silence. C'est ça, hein ? Je suis
leur... Ouais, Je suis leur silence.
Et franchement, celui-là, c'était vraiment un banger, genre. Mais un banger surprenant. C'était tellement bizarre. Mais tellement bien, mais tellement bien.
Oui, en fait, il y a un truc hyper... Parce que c'est une enquête, mais en même temps, t'as un truc avec la famille, t'as des trucs de secret. Puis elle, comme c'est une psy...
Une psy qui est elle-même en train de se faire potentiellement retirer sa licence de psy parce qu'elle est un peu chelou, je sais plus ce qu'elle a fait. Et cette psy, en fait, elle va suivre une de ses patientes qui a des galères de famille dans un gros événement familial où va y avoir un meurtre et du coup va y avoir une enquête. Et elle va
parce qu'il y a une histoire de testament aussi.
Voilà, parce qu'il y a une histoire de testament et elle veut s'assurer un peu que ça... être un peu un soutien moral déjà à sa patiente. Bon, déjà un peu weird, la relation patient-psy.
Après, il faut quand même préciser, genre, la psy, donc la personnage principale, elle est là à la demande de la patiente. Elle va aller l'espionner, c'est en mode...
Non.
Elle est vraiment là à la demande de la patiente.
C'était, je sais pas, ça se passe en Espagne, je crois.
À Barcelone.
Oui, c'est ça. Il y a une ambiance très, très solaire. Moi, j'aime beaucoup le style de Jordi Lafebvre qui avait écrit Malgré tout.
Oui.
Que j'aurais pu beaucoup aimer si le sujet était un peu... Enfin, s'ils avaient traité le sujet un peu différemment. Donc le style est... mais je sais pas, c'était quand même, en fait, le personnage de la psy, il est tellement bizarre, il se passe tellement de choses bizarres, c'était hyper intense et speed, était là et tu... c'est une grosse BD quand même, il y a genre au moins, je sais pas, il doit y avoir 200 pages, un truc comme ça. Elle était vraiment fat, en plus c'est un grand format. J'ai mis du temps à la lire et elle m'a vachement prise, mais ça m'a quand même tenue en haleine. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de sourires, tu sais, j'ai eu beaucoup de moments un peu de... il y a beaucoup d'humour aussi dedans.
Mais en fait, comme le personnage d'Eva, du coup, la psychiatre, elle est très excentrique, en fait, comme femme. Genre, elle est vraiment... Elle part dans tous les sens. Puis tu te dis, mais est-ce que... Parce qu'elle entend les trois voix, en fait, qui sont trois femmes de sa famille de différentes époques. Mm. Et en fait, elle est vraiment genre en mode... C'est trop étrange, parce que c'est comme si ces trois femmes la suivaient, mais vraiment partout.
Ouais.
Et elle, des fois, elle leur répond, mais en mode, genre, tout à fait normalement. Et toi, t'es là, genre, mais ces femmes sont mortes depuis quand même des années. Genre, c'est trop bizarre. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout le petit côté enquête.
Ouais.
Qui était, parce qu'il y a un moment où on découvre un cadavre et tout, alors qu'on va lire un testament. Puis il y a tout ce truc de famille, mais qui n'est pas sa famille à elle, qui est la famille du coup de sa patiente, et t'as plein de secrets, etc. Et c'est vrai que le côté enquête était assez captivant, mais je me souviens que la résolution, j'avais trouvé ça un petit peu rapide, et j'étais en mode, je m'attendais un peu à un truc un peu plus waouh.
Ouais, ça je suis d'accord.
Mais après, c'était quand même très satisfaisant comme enquête.
Ouais. Franchement, on recommande. Si vous avez un peu le temps et vous aimez les trucs un peu spé, franchement, ça se... Après, pour continuer sur la partie graphique, nous deux, on a lu, un dernier qu'on a lu toutes les deux, c'était Le Monde des Cancres, du coup, tu l'as lu.
Exact.
Moi, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai pas trouvé ça transcendant, mais j'ai quand même trouvé ça sympa. Genre, les dessins, j'ai beaucoup aimé la dissonance un peu entre le côté très sombre qui est censé être un peu l'histoire, malgré un côté très jeunesse. Hein, donc, sombre, toujours dans un univers jeunesse, on est quand même sous un... C'est quoi, sous le sous-sol d'une école où justement on fout tous les cancres et du coup en fait il se passe des choses un peu bizarres et pas très pas très sympatoches. Et la douceur des dessins, j'ai trouvé le tellement doux en fait. Je sais pas.
Mais il y a un truc, ça t'a pas fait moi ça m'a fait rappeler un peu le style de Elle, parce qu'il y a un truc un peu genre
complètement
un peu en mode peut-être 3D animation. Enfin, il y a un truc assez animation je trouve dans les dessins. Et alors pas forcément dans les couleurs parce que elle c'est très coloré, mais et là on est plutôt sur des teintes très sombres, mais vraiment dans les dessins il y a un truc qui m'a trop fait rappeler cette BD. Et moi j'ai plus aimé les dessins que l'intrigue en elle-même.
Ouais, je suis assez d'accord là-dessus.
Parce que bon, l'intrigue, comme l'a dit Lola, c'est on suit un jeune garçon qui est envoyé dans une école parce que il a vraiment des résultats scolaires, voilà, et puis il fait que des bêtises, et en fait c'est une école qui est un peu réputée pour redresser ses élèves, et en fait ils sont tout le temps collés, et sauf qu'on se rend compte qu'en fait quand ils sont punis, il se passe des choses sous l'école où c'est un peu excentrique aussi, mais pas à la même manière de je suis leur silence, mais c'est un peu excentrique dans le sens où t'as des robots pour faire les punitions et tout, et moi j'étais un peu en mode mais c'est les Hunger Games en fait leurs punitions.
C'est vraiment la street leur école, genre vraiment t'as pas envie d'y aller.
Non mais vraiment.
Après c'est assez kids, je trouve, c'est peut-être pour ça il y a quand même un côté très jeunesse, donc qui peut plaire à des ados ou des trucs comme ça, je pense que ça va quand même bien fonctionner.
Puis t'as un truc avec l'amitié et tout, t'as un petit fond de famille qui commence à se créer. Mais c'est vrai que le tome 1, je suis un peu restée sur ma faim, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord.
Moi, j'ai d'autres graphiques.
Moi, j'en ai un autre, enfin, j'en ai d'autres, mais j'en ai surtout un dont je veux parler.
Vas-y, vas-y.
Moi, c'est... je sais pas si tu l'as pas pris, toi, chez Dupuy, Retour à Neverland.
Si, mais je l'ai pas encore lu.
Ah, mais un banger, mais vraiment coup de cœur, genre. Je lui ai mis 5 sur 5.
Il faut que je le lise.
Et Eline, elle l'a pris. Ouais. Elle a kiffé, genre elle a dit les dessins elle, c'était moins son style, ce que je peux comprendre un peu, du coup elle m'a dit je mets pas 5 sur 5 pour ça, mais sinon elle a dit genre vraiment c'est un retelling en fait de Peter Pan, en gros on suit des enfants modernes, en fait c'est que des enfants un peu abandonnés à New York, tu vois, qui sont dans la rue et tout, des orphelins, voilà, des choses comme ça, et en fait donc ce côté un peu found family, et en fait il s'avère que ces enfants là en fait c'est des enfants perdus, et en fait ils vont être amenés à rejoindre le monde de Neverland. Qui est à la recherche de Pan, en fait, parce qu'en gros, ils ont perdu Peter Pan. Enfin, bref, il y a toute cette histoire-là.
Ok.
Mais c'est le meilleur retelling de Harry Potter. Putain, je crois que j'ai perdu. De Peter Pan que j'ai lu, genre. Vraiment, c'était trop bien fait. Mais surtout, je me suis cassé des barres. Mais vraiment, cassé des barres.
C'est
la première page. Et Lynn, elle a ouvert, elle a vu la première page, elle s'est tapée une barre. Vraiment, je vous jure que c'est rempli d'humour. Je trouve que c'est hyper inclusif. Vous verrez pourquoi dans plein de choses. Enfin, vous verrez pourquoi si vous le lisez, parce que sinon je spoil un truc de la fin que j'ai pas envie de spoil. Mais hyper inclusif. Et puis surtout, genre, tu retrouves un peu tous les personnages qui font le monde de Peter Pan, mais d'une façon complètement retwistée, mais qui dénature pas non plus le conte original, qui respecte quand même des choses du conte original, mais qui les réadapte et les modernise d'une façon qui est hyper intelligente, j'ai trouvé. C'est très attachant. Tous les enfants perdus sont hyper attachants. T'as une vraie surprise à la fin. Enfin, moi, il y a un vrai plot twist où tu te dis, ah ouais, genre, je pensais que c'était ça, et en fait, non, bon, voilà. Donc, ouais, franchement, je peux que recommander aux gens qui aiment Peter Pan d'acheter cette BD, parce que moi, j'attends le tome 2 avec impatience. C'est vraiment, vraiment ma meilleure lecture graphique, là, pour le moment, de toute l'année, genre.
Ah ouais, à ce point.
Ouais. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment. Ouais. C'était, j'ai trouvé que c'était juste un vrai 10 sur 10. Et surtout, j'ai tellement rigolé. J'ai tellement... Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant ri dans une lecture, même en général. Genre, j'ai juste trop rigolé et voilà. Et je ne sais même pas pourquoi cette BD, elle n'a pas plus d'étoiles sur ce fichu Goodreads. Genre, elle mérite au moins... au moins
t'inquiète, 4... on va motiver les gens à lire.
Vous mettez un 4,5 minimum. Voilà, vas-y, je te laisse à toi.
Alors moi, je vais parler d'un manga et après, je parlerai encore d'un graphique et on clôturera l'aspect graphique. Mais il y a un manga que j'ai lu qui s'appelle Sounds of Life. Bon, c'est un manga qui est assez long puisque je crois qu'il y a une trentaine de tomes en japonais qui sont déjà sortis. Il n'y en a que 10 en France. Moi, j'en ai lu 9. Et vraiment, j'ai eu un tel coup de cœur pour ce manga. Alors, au départ, j'étais pas... Enfin, le tome 1, tu sais, j'étais un peu en mode « Ouais, ouais, ça va. » Et en fait, après, j'ai lu le tome 2, tome 3, et après, je pouvais plus m'arrêter. Ouais, et en fait, c'est assez particulier parce que... Alors, c'est très ambiance lycée. Je sais pas. Alors, c'est pas un shoujo, mais je crois pas que ce soit un shonen, je sais plus. Je sais plus très, très bien dans quelle catégorie il est. Je vais regarder sur Goodreads.
Il y a Seinen et tout, là. Il y a les trucs qui sont en mode plus adultes, mais en
ouais,
mode...
c'est un shonen. C'est un shonen. Et en fait, on est au lycée, donc on suit une bande de lycéens. Et en fait, le manga, il commence par le président du club de Koto. Donc, un instrument, tu vois, que moi, je connaissais pas du tout, qui est un instrument japonais à cordes. Et en fait, tu y joues en fait assis, t'as l'instrument devant toi et tu dois pincer les cordes et c'est hyper physique en fait.
Ah, si, je l'ai déjà vu dans peut-être dans le drama coréen potentiellement.
C'est vraiment genre hyper hyper ouais. Physique et en fait ils sont le président il n'arrive pas à avoir des membres dans son club, genre il est tout seul et en fait son local est complètement investi par des délinquants et tout et à un moment en fait il se fait aider par le délinquant du lycée qui s'appelle Chika et c'est le mec qui fait un petit peu flipper, tu sais, qui est toujours dans des bagarres etc. Et en fait il se fait aider par lui et Chika il va se dire genre ok moi en fait j'ai envie de jouer du koto et t'es là genre ok d'accord. Et en fait il y a tout un truc où ils vont vraiment redonner une seconde vie au club de koto. Il y a des personnages qui vont finir par se rajouter, etc. Ils vont vouloir concourir jusqu'au national. Il y a vraiment un truc d'amitié, mais qui est très, très fort. Mais vraiment, j'avais rarement ressenti ça. Et ils ont chacun, en fait, leurs problématiques avec leur famille. Il y a beaucoup d'histoires de famille. Genre, Chika, il a quand même un passé qui est très trouble, puisque son grand-père, il jouait du koto. Et ouais. il fabriquait des koto, etc. Et donc, lui, il a un attrait pour cet instrument de par son grand-père. Et en fait, son grand-père est décédé. Et lui, en fait, il a une culpabilité énorme par le décès de son grand-père.
Ah ouais.
Et en fait, c'est des personnages qui sont juste super touchants. Et au contact de chacun, ils vont apprendre tellement de trucs, mais surtout via le koto où ils vont apprendre la persévérance. Mais vraiment, c'est genre... Ils démarrent en mode, ils ne savent rien du tout, sauf à part le président qui sait un petit peu deux, trois trucs. Et t'as une meuf qui, Satawa, qui est, qui elle est genre une surdouée, genre du koto, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout dans un club aussi niteux que celui-là? Et elle aussi, elle a plein de problèmes avec sa famille et tout. Et en fait, t'as vraiment ce truc d'amitié. Tu sens qu'il y a des petites romances aussi qui se créent par-ci, par-là. Mais c'est vraiment ce truc où, en fait, ils sont tellement à fond dans ce qu'ils font. Que quand ils y arrivent ou quand ils ont des échecs, mais t'es tellement investi avec eux que t'es en mode genre, mais tu vis toutes les émotions. Et il y a un truc aussi dans les dessins que j'ai rarement vu en manga, surtout en shonen, où en fait t'as des énormes gros plans des fois sur leur tête où ça prend genre une double page. Et en fait, je trouve que les émotions sont très visibles sur les visages.
Ouais, je vois très bien. Ouais.
Donc en fait, t'as un truc que on voit de temps en temps avec des BD ou des romans graphiques, mais c'est vrai que sur les mangas, c'est un peu plus difficile, je trouve, d'exprimer les émotions, mais là, c'est vraiment des émotions très intenses, où t'as vraiment des mimiques de visage qui sont un peu genre disproportionnées parfois, mais en fait, ça fait que, en tant que lecteur, tu peux que t'investir dans le bouquin. Donc ça, c'était...
Eh ben, trop cool.
C'était vraiment top. Et le dernier graphique dont je voulais parler, ça s'appelle « Le champ des possibles ». Alors là, c'était une énorme surprise parce que je pensais pas du tout kiffer. En fait, quand j'étais au salon de Montreuil, j'étais au stand du Puy. Et comme je suis partenaire du Puy, j'ai parlé avec Johanna qui s'occupe des partenaires. Voilà, si Johanna passe ici. et en fait, je lui parlais, etc. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux pas cette BD pour la tester et tout. J'ai fait oh d'accord, et en fait c'était une BD que j'avais pas demandé à la base parce que j'avais déjà reçu, genre parce qu'on reçoit les programmes par trimestre. Et j'avais pas demandé cette BD parce que en fait elle me tentait pas par les dessins et tout, mais aussi par le sujet. Et donc du coup j'étais un peu en mode ouais bon, je sais pas si je vais kiffer. Évidemment je voulais la lire parce que sinon je l'aurais pas prise. Et en fait tu suis une jeune femme qui s'appelle Marsou, qui est architecte, et en fait ça se passe dans un monde futuriste mais pas si éloigné que de notre présent que ça, et en fait elle est mariée, mais dans un congrès elle va rencontrer un autre architecte qui lui est il est architecte, mais genre il développe énormément l'intelligence artificielle.
Okay.
Donc tu vois, il y a un vrai sujet sur l'intelligence artificielle et tout, il y a un vrai sujet sur le virtuel, etc. Et c'est ça au départ qui m'a un peu genre... J'étais un peu en mode, c'est pas trop mon délire, c'est vraiment pas trop mon délire, surtout que ça fait un peu science-fiction et tout. Et en fait, il y a tout un truc de réalité virtuelle, et en fait, Marsou, elle qui au départ n'est pas du tout pour ça, en fait, elle va se laisser prendre au jeu et elle va voir qu'il y a plein de possibilités en fait, et que ce n'est pas que... c'est pas que du négatif. Et aussi il y a un vrai sujet avec le polyamour. Donc en fait elle est mariée, mais en fait elle va tomber amoureuse de ce mec qu'elle rencontre au congrès, et il y a vraiment un truc qui n'est pas du tout de l'ordre de la tromperie. Enfin vraiment c'est tellement bien foutu où en fait elle est, parce que son mec en fait, enfin son mari, il est au courant. Il est complètement au courant de tout ce qui se passe, etc. Et en fait, c'est un truc, non seulement ça parle de réalité virtuelle, donc de double vie que tu peux avoir dans ta propre réalité et dans la réalité virtuelle. Et en fait, elle est tellement amoureuse de son mari, etc., que dans la réalité, elle reste avec son mari. Mais dans le virtuel, elle est avec cet homme-là. Et il y a un truc, à un moment, elle dit une phrase qui m'a énormément touchée, où elle dit à son mari... Oui, je peux te dire que je suis amoureuse de lui et je t'aime encore plus de pouvoir te le dire. Et genre vraiment, il y a vraiment un truc, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à être autant touchée par ça, parce que moi, je ne me vois pas, j'ai besoin de m'identifier au personnage en fait quand je lis une histoire, tu vois. Et moi, je me suis dit, moi, je ne pourrais pas en fait, vivre une histoire avec quelqu'un qui a une histoire avec une autre personne. Je ne pourrais vraiment pas. Et en fait, c'est tellement bien écrit que je me suis laissée prendre au jeu et j'étais vraiment en mode genre, mais waouh, c'est si beau. Et en fait, tu vois toute leur vie jusqu'à la fin. Et alors à la fin, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai fini en larmes, mais vraiment en larmes. J'étais en mode, mais c'est beaucoup trop beau. Et tu as tout ce truc au niveau des relations, mais aussi de la réalité virtuelle. Ça te fait poser plein de questions. Alors, à un moment, j'ai trouvé que ça allait trop loin. Vraiment, j'ai trouvé que ça allait un peu trop loin. Mais ouais, c'est la fin surtout qui m'a énormément touchée. Et vraiment, son mari, mais je me suis dit, mais quel homme ! Mais vraiment, mais quel homme ! Mais je me suis dit, mais comment tu peux genre, accepter tout ça ? Mais surtout que pour lui, genre, il n'y a pas de... Enfin, il y a tellement de communication, en fait, entre eux, qu'il n'y a pas de... Genre, tu vois, il n'y a pas de souci, quoi. J'étais en mode, genre, waouh, mais comment tu laisses faire ça ? Et toi, t'es tellement chill, et en même temps, elle, tu comprends en fait qu'elle l'aime d'un amour tellement profond, ces deux hommes. Et vraiment, c'était une grosse surprise. Et je sais que Zozo, elle l'a lu aussi, parce que je lui ai envoyé un message, je lui ai fait « Meuf, absolument que tu dis ça !» Et pour elle aussi, ça a été un énorme coup de cœur, et elle a trop kiffé.
Bah franchement, j'avoue que après la thématique de la réalité virtuelle, intelligence artificielle et tout, c'est quelque chose qui est tellement d'actualité et qui est en train de tellement de bouleverser nos vies et atteint, je pense, beaucoup plus d'ici une décennie, tu vois. Je pense que ça va être hyper, hyper intéressant en réalité de lire. Après, je t'avoue que le côté polyamour, tu me connais. Mais la façon dont on en parle, je me dis, why not?
Donc, mais en fait, moi, tu vois, j'étais exactement comme ça avant de lire la BD.
Ouais,
et voilà. C'est vraiment ce qui m'a rebuté au début. C'est vraiment ce qui m'a rebuté et j'étais en mode genre non, c'est pas pour moi, je sais que je vais pas kiffer cette relation de polyamour et tout. Et vraiment, je me suis laissée tellement prendre au jeu. Très, très surprise. Hein.
Du coup, maintenant, pour vous parler un peu des lectures, moi, j'en ai pas 50 000 en termes de lectures vraiment romans à vous parler, mais il y en a trois dont j'aimerais bien parler quand même. Parce que je ne vais pas trop m'attarder sur des lectures qui étaient un peu moyennes. Genre, j'ai lu Gronde d'étoiles chez Gallimard. Tu vois, je crois que tu l'as en plus dans ta palle depuis.
Ouais, moi j'ai dans ma palle, ouais.
Ouais, moi j'avoue que j'ai trouvé ça cool. Voilà. Juste, tu vois un peu mon réel que j'ai fait là avec Marine Le Pen sur. Je mets 3 sur 5. Hein. C'était un peu moi après la lecture de Gronde d'étoiles. C'est que c'était. Je pense que c'est vraiment très bien pour un lectorat qui est plus jeune. Je pense que c'est juste. Il y a deux catégories de jeunesse pour moi. Il y a ceux qui ont une profondeur qui est intéressante et qui peut permettre à un adulte d'apprécier le bouquin, et ceux qui sont vraiment pour du jeunesse, et je pense que lui, il est vraiment plus pour du kids, quoi. Tu lis ça à 12-13 ans, je pense que c'est max, mais je pense qu'à 30 balais, c'est bon. Juste parce qu'on entend de ouf un chien qui hurle, là, non ?
Ah, j'ai rien entendu.
Ok, tant mieux, parce que vraiment, il n'y a pas à hurler comme ça. voilà, c'était un peu moyen, et je ne vais pas m'attarder non plus sur Jules Verne, L'île mystérieuse, parce que j'ai pas.
T'es bien, mais sans plus.
Ouais, voilà. J'ai préféré 20 000 lieues sous les mers. J'ai trouvé ça cool, mais j'avoue, j'ai lu une version abrégée déjà, parce que je voulais un audio en français qui n'était pas genre LibriVox, tu vois. Genre, je peux plus. LibriVox, c'est trop dur. Et en fait, il n'y en avait pas. Il y en avait un de 6 heures. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais le lire, je vais l'écouter. Et c'était cool, mais j'ai trouvé que il y avait quand même. Il ne se passait pas grand-chose, quoi, globalement. Enfin, les mecs sont sur l'île, sur une île mystérieuse, et tu as une petite surprise à la fin, mais en fait, spoil avant. Enfin, c'était pas ouf. En revanche. Très bonne découverte avec Le Trône des Magiciens de Jupiter Phaéton. C'est un service presse que du coup on m'a envoyé, qui est en auto-édité. Elle auto-édite tous ces trucs. Elle a créé un Discord, mais qui est énorme, avec des centaines et des centaines de lectrices et tout. Elle écrit des livres, mais comme je mange, quoi. Enfin, je veux dire, elle a tellement de bouquins, je suis surprise. Et Le Trône des Magiciens, franchement, c'était du coup une de mes premières, même ma première lecture fantasy, vraiment fantasy de l'année. Ça fait longtemps que moi, je ne me suis pas mise un peu dans un truc vraiment fantasy, tu vois, donc ça m'a fait vraiment du bien de me replonger dans ça. Et en fait, ça se passe à Londres, et en gros, on est c'est dans une héroïne qui a forcément une histoire familiale qui est compliquée, qui a des pouvoirs cachés, qu'elle ne soupçonne pas. Il y a une grosse menace qui vient menacer l'existence des magiciens et des humains dans le monde, donc à Londres. Ça m'a un peu rappelé Grisha, un peu dans cette ambiance un peu folklore russe, tu vois. Et je trouve que ça a su avoir sa propre originalité, même si le plot est assez classique. Il y a eu beaucoup de points de vue. Il y a beaucoup de points de vue différents. Mais du coup, ça fonctionne hyper bien d'avoir ces genre 5-6 personnages que tu peux suivre, tu vois, dedans. Moi, l'héroïne, je l'ai beaucoup aimée. J'avoue qu'il y a eu parfois des expressions de dialogue, des phrasés qui étaient. C'était rien de bien méchant, tu vois, mais qui m'ont un peu dérangée dans un sens, un phrasé un peu trop familier qu'on pourrait utiliser nous. Tu sais, moi, quand je lis, j'aime bien avoir quelque chose qui est quand même assez littéraire, moins dans tous les journaux. Mais juste, il y avait un petit personnage qui s'appelle Seth Gray. Hein. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais dans le genre homme très ronchon, très musclé, très fort, très sympa, mais en fait un petit peu sympa, tout ce qu'on aime bien. Du coup, voilà, j'ai trop kiffé. Franchement, c'était une bonne découverte. Et moi, l'ambiance Londres fantastique, comme ça, très très cool. Voilà.
C'est un one shot?
Non, c'est une. I think it's a trilogie. Parce que. Attends, c'est le Trône des Magiciens. Donc, il y a le 1, le défi de la couronne. Le 2, Ténèbres à l'horizon. Et le 3 qui vient de sortir, qui s'appelle Lueur d'espoir. Et je crois que ça s'arrête là.
Ok.
Voilà. Et ouais, elle a vraiment énormément de taf. Genre, elle a une saga avec 4 tomes, une saga avec 5 tomes, une autre avec 9 tomes, une autre avec
6
tomes et une autre avec 8 tomes.
Non, mais oh la vache!
Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie, genre. Et franchement, les livres sont bien notés. Je veux dire, le défi de la couronne, il a quand même 123 notes sur. Enfin, pour un DVD, c'est pas mal, mine de rien. Ouais. Sur Goodreads, surtout sur Goodreads, parce qu'il y a pas. Enfin, c'est moins francophone. Ouais, que, voilà. Et il a quand même 4,28 en notes, tu vois.
Donc, ah oui, ouais, c'est pas rien, quoi.
Ouais, c'est pas rien. Donc, non, franchement, pour ceux qui aiment la fantasy, qui veulent chercher quelque chose un peu autre que ce qu'on voit partout, bah, franchement, je recommande.
Bah, je vais continuer sur autrice française, mais alors expatriée au Canada. Okay. Moi, j'ai lu L'Engrangement et vraiment, c'était trop bien. Alors, c'est assez jeunesse. Je sais que Hélène voulait le lire et quand je lui ai dit que c'est, enfin, que pour le coup, c'était, ouais, c'était assez jeunesse, mais pour moi, ça se situe vraiment à la limite entre le jeunesse et le young adulte, tu vois. Et en fait, alors, il y a le monde est absolument, mais genre, incroyable. Autant c'est pas un truc hyper poussé, hyper complexe, mais j'ai trouvé que vraiment c'était, il y avait un truc qui m'a, je sais pas, qui m'a tellement attirée parce que c'est vraiment une ambiance d'horloge où en fait tu suis une horlogère qui s'appelle Sophie de la Pointe et qui parle le chronolangue. Donc c'est-à-dire elle parle aux oranima qui sont des horloges en fait qui parlent, mais il y a que elle qui peut les entendre. Si tu parles pas le chronologue, en fait, tu peux pas entendre les horloges. Et en fait, elles sont utilisées pour prévenir de tous les complots en fait dans le royaume. Et Sophie, elle va être chargée par je sais plus qui En gros, oui, mais à la base, en fait, elle est vraiment genre l'horlogère attitrée du roi. Et en fait, il va y avoir tout un voyage dans le temps. Parce que je ne vous dis pas exactement comment ça se passe, parce que sinon, ce serait gâcher un peu la surprise. Mais malgré elle, en fait, elle va faire un saut dans le temps et elle va se retrouver, mais genre 20 ans dans le passé. Et elle va déjouer un complot, en fait, qui visait à assassiner le jumeau du roi.
Ok.
Et elle va vraiment déjouer un complot, mais genre, vraiment sans rendre compte. C'est genre, la go, elle arrive, elle fait genre, non, ne le tue pas. Et après, en fait, elle va être... Il va y avoir toute une aventure, etc. Il y a un petit soupçon de romance. Et surtout, moi, ce qui m'a trop attirée, je ne savais pas du tout, avant de commencer le bouquin, mais il y a tellement de références au château ambulant de Miyazaki. Mais genre, c'est incroyable parce que j'étais vraiment en train de lire et puis tout d'un coup, je fais « Mais quand elle monte les escaliers, mais ce serait pas la scène où ben, justement l'héroïne qui s'appelle aussi Sophie dans le château ambulant, elle monte les escaliers pour aller au château ?» Et j'étais vraiment en mode « Mais c'est exactement les mêmes scènes. » Et pour autant, c'est pas du copier-coller parce que vraiment, le monde, rien à voir. Oui, l'histoire, rien à voir.
C'est un deuil, en fait, justement, pour les gens et pour les fans.
Trop cool. Mais oui, et le pire, c'est que Nell, l'autrice, je l'ai rencontrée au Salon de Montreuil, et, qui est adorable, d'ailleurs. Et le tome 2 va sortir très bientôt, là, fin avril. Et en fait, je suis une gogole parce que, littéralement, sur son Insta, elle a fait plein de reels où elle montrait justement que bah, c'était inspiré du château ambulant. Et moi, j'étais là, j'ai fait « Oh, bah dis donc, ça ressemble un peu au château ambulant !» Il faut être attentive. Vraiment, il faut être attentive des fois. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. Et je l'ai lu en SC avec Laurie. D'ailleurs, elle m'a vraiment attrapée par le callback. Elle m'a fait genre « Viens, on lit ça. » J'ai fait « Ok !» Alors, j'avais déjà 3 lectures en cours. Et je l'ai défoncé en 48 heures. Trop parce bien. Que t'as un truc vraiment c'est un truc qui se lit hyper vite. Et puis surtout, l'objet, livre, est super beau. Enfin, le relier, il est vraiment il est vraiment incroyable. Après, bon, il y a quelques trucs où, voilà, c'est assez, enfin, dans la plume, c'est assez jeunesse, etc. Je pense qu'il y a des trucs qui mériteraient d'être un petit peu plus développés, mais c'était vraiment, vraiment pas mal.
Trop cool. Bon, bah, franchement, ça peut me donner envie de l'ambiance horloge, j'aime beaucoup.
Et puis, c'est une duologie en plus, donc.
Ouais, donc ça peut se faire assez vite. Ok. Bon bah moi je en ai deux encore. En fait mon ordinateur vient de me dire en plus qu'il va éteindre mon PC dans 21 minutes, je suis ravie.
Ah.
Mais bon, ça nous laisse le temps de finir quoi qu'il arrive, mais c'est un peu, oui, parce que c'est mon ordi du taf que j'utilise et la sécurité fait que toutes les semaines, en gros pendant une semaine, si t'éteins pas ton ordi, le serveur en gros il te force l'arrêt.
Ah oui, d'accord.
Le coup, et t'as pas le choix en fait, tu subis, donc t'arrives en pleine réu et t'es là genre
ouais.
Bref, moi j'avais deux lectures dont je voulais vous parler. La première, c'était Amari.
Ah oui, forcément. J'ai toujours pas lu, mais...
toujours pas lu, mais franchement, encore une super bonne lecture. Amari, moi je l'aime trop. Je trouve que c'est un personnage qui est trop attachant. C'est une protagoniste qui est vraiment pleine de courage. Je trouve qu'elle a vraiment une volonté de bien faire. T'es un peu derrière elle, tu te dis vas-y genre ma petite Amari, genre you can do it, tu vois, t'es toujours derrière elle parce que je trouve qu'elle est très touchante par son côté très humain, mais juste bah elle vit des choses et elle essaie de s'en sortir. C'est pas genre hyper courageux, bah non, c'est pas la petite oh j'ai peur de tout, enfin, y a pas de truc pas crédible, elle est juste là et t'es là, tu te dis ok, bah, ça pourrait être moi, tu vois, genre je fais de mon mieux, mais j'ai pas non plus envie d'aller crever dans la gueule d'un serpent, tu vois. Donc franchement tu l'aimes bien. Le rythme, toujours l'intrigue, je trouve que ce soit le premier ou le deuxième tome, il n'y a jamais de moment de plat. Ça s'enchaîne super bien. Tu n'es pas tout le temps en mode, ouais. C'est pas le temps, mais il y a toujours quelque chose qui fait que tu ne t'ennuies pas, je trouve. Et notamment là, parce qu'il y a un peu une bi-intrigue, donc tu enchaînes un peu sur les deux intrigues qui s'alternent. Donc, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Pour moi, c'est encore presque un sans faute. Hein. Il y a eu juste, c'est vrai que je ne l'ai pas mis 5 sur 5 parce que quand il y a des trucs un peu fantasy, après, moi, j'aime bien quand il y a un peu une scène qui me fait genre, waouh, tu vois. Genre,
ouais, contre, je comprends.
Tu vois, t'as une scène qui te dit, tu te montres un truc, tu te dis, amazing. Et je sais que le premier tome, je n'avais pas mis 5 sur 5 parce qu'il y avait une scène que j'attendais énormément et j'étais un peu déçue de l'exécution, où justement, elle ne m'a pas fait le waouh qu'elle aurait pu me faire.
Mm-hmm. Ouais, tu vois.
Fait. Et là, du coup, c'est ce qui m'a un peu manqué. Mais globalement, voilà, le dernier chapitre en plus, il nous laisse encore sur un stress pas possible. Il se passe une dinguerie, genre une dinguerie de lire la suite. Et je trouve ça bien qu'on édite ça en France parce que Amari, bah, c'est une petite fille noire qui vient de banlieue, qui vient de cité. Et ça fait plaisir de voir une héroïne fantasy, jeunesse, justement, qui reprend les codes juste de beaucoup de petites filles sur cette palette, tu vois, à qui vont pouvoir s'identifier à elle. Donc, je trouve ça vraiment très, très cool. Donc,
ouais.
Voilà, je recommande vraiment à Marie. Et pour le coup, c'est un jeunesse. Ma voix est en train de partir en mode. Attends. Vous sentez comment je parle du nez d'un coup là ?
Ouais.
Ouais, c'est bon. J'ai essayé de casser le bail. C'est vraiment les jeunesses qui, je trouve, qui sont comme un peu Nevermore, où c'est des jeunesses qui se passent très bien à l'âge adulte. Je trouve que c'est vraiment
jeunesse
que j'aime. À l'âge adulte, ils ne sont pas trop kids, pas trop gnangnan. Il y a des vraies intrigues de fond, il y a des vraies choses. Je trouve que voilà. Voilà.
Okay.
Je te laisse présenter autre chose avant de présenter mon dernier.
Ben, moi, j'en ai encore 4, en fait, mais il y en a 2 où je vais aller très, très vite dessus. J'ai lu The Blood Traitor, du coup, qui est le tome 3 de The Prison Healer. Qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en français. Franchement, la fin a été satisfaisante pour cette saga, mais pour moi, ça reste juste une saga sympa, tu vois. Où en fait, je pense qu'il y a tout le monde qui a vraiment surkiffé cette saga, et moi, j'étais en mode genre, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Par contre, le gros point fort pour moi, c'est la relation entre les persos. Genre, vraiment, il y a une relation entre les persos qui est genre trop bien. Juste, la romance, en fait, je m'attendais à ce qu'elle me fasse beaucoup plus vivre de trucs. Et vraiment, Jaren, du coup, le love interest, il est trop plat. Genre vraiment, le mec, c'est un peu le héros parfait, tu vois. Et j'étais un peu en mode, en fait, il n'a pas d'utilité, mis à part être le love interest. Ouais. Et pour moi, c'est un truc où, en fait, je l'ai kiffé dans sa relation avec Kiva. Et franchement, Kiva, je ne l'imaginais pas avec un autre mec, tu vois. Pas du tout. Moi, j'étais très contente quand qu'ils soient ensemble. Mais en fait, ouais il vit pas autre chose qu'à travers Kiva. Et pour moi, c'était un peu genre, sinon t'es trop lisse. Par contre, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Caldon. Et lui, par contre, il est sarcastique et tout. Mais j'étais là.
J'aime trop les personnages sarcastiques.
Ah ouais. Et lui, vraiment, il était top. Après, l'intrigue, je trouve qu'elle est quand même pas mal sur toute la trilogie, etc. Puisque surtout dans ce tome 3, parce que tu voyages un petit peu, alors que dans les deux premiers tomes, tu étais plus dans des huis clos. Bah, le tome 1, ça se passe vraiment dans une prison, littéralement. Et l'intrigue, par contre, je l'ai trouvé un peu. Même si elle est pas trop mal, j'ai trouvé le récit un peu linéaire, en fait. Pour moi, tu vas d'un point A à un point B, et puis voilà. Et puis, franchement, t'as des plot twists qui sont ultra prévisibles. En fait, pour moi, c'est juste une bonne saga de young adult, mais bon, ça s'arrête là. Et après, juste pour aller très vite sur un autre bouquin que j'ai lu et que Eline aussi a lu, mais je me demande si je vais pas en parler plus dans peut-être notre deuxième épisode des lectures du trimestre, donc du deuxième trimestre, parce que je pense que je vais lire le tome 2, c'est Une heure comes to rise, donc une héritière, je sais plus trop quoi. Il va sortir en français là dans pas très longtemps, qui est beaucoup comparé d'ailleurs à Throne of Glass. Moi, j'avoue, dans le tome 1, j'ai pas J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de ressemblances, mais Eline m'a dit que dans le tome 2, apparemment, c'était vraiment genre limite du copier-coller. Et c'est vrai que quand tu arrives à la fin du tome 1, tu te dis ah ouais, il y a tendance à vraiment faire du Throne of Glass et tout. Okay. Mais j'ai trouvé ça assez sympa, sachant que le monde est hyper cool. Les personnages lambda, mais monde assez sympa parce que tu es vraiment en mode. Il y a des Nightwalkers, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent visiter la tête des gens tant qu'ils rêvent. Et j'ai trouvé ça assez stylé, en fait. Il y a
un truc de la marcheuse de rêve, quoi.
Mais vraiment, c'est... Okay. C'est vraiment assez... C'est pas de l'arpenteuse de rêve.
Si, c'est ça. C'est ce que j'ai compris après. Ce que je dis la marcheuse et après... Il y a pas de la marcheuse, c'était les marcheurs blancs. Ouais. On s'en mêle un peu des pinceaux dans ces univers.
Mais ouais, franchement, c'était... Là aussi, c'était sympa comme tome, mais vraiment très introductif comme tome 1. Et en fait, tu sens que l'autrice, elle a voulu juste faire une introduction. Parce que tu sens qu'il va se passer 15 000 trucs. Mais apparemment, je sais que Sarah Petitbout, elle a kiffé le reste de la saga. Et apparemment, il y a un tome qui est vraiment genre incroyable au niveau de l'intrigue. Donc, je vais continuer. Mais ouais, voilà, c'était bien, mais sans plus.
Ok, ça marche. Moi, du coup, le dernier roman, je voulais vraiment, vraiment, vraiment parler. Après, juste, j'ai oublié de parler des complots de Versailles que j'ai lu. C'est 3 BD. J'ai lu le tome 1, 2, 3. Il y en a 8 à date ou 9 de chez Jungle. C'est une ambiance très... tu sais ce qu'on lisait là, La Rose Écarlate. Un peu une ambiance...
Ah oui, le Café d'Épée.
Ouais. KPDP un peu ambiance château de Versailles, des petits, en fait mélange de La Rose Écarlate et Les Carnets de l'apothicaire.
Ah ok, d'accord.
Bang bang. Lago, c'est une petite meuf soigneuse et tout, tu vois, qui fait des trucs avec les plantes et tout machin, et du coup ça joue beaucoup autour de ça, de la connaissance des plantes, des trucs. Très intrigue Carnet de l'apothicaire but make it Versailles en fait. Donc très 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 sympa, les dessins sont trop beaux, moi j'aime trop les dessins. J'ai lu les 3 tomes, j'ai trop kiffé. Donc, pour info, je voulais juste vous parler de cela parce que vraiment, ça vaut le coup si jamais vous aimez les ambiances très Versailles. J'ai trouvé ça très, très cool comme BD. Et sinon, dernière lecture, Check and Mate, quoi. C'est-à-dire qu'on a
Ah, mais j'ai lu aussi.
Le dernier Ali Hazelwood. Donc, Ali Hazelwood qui s'essaye au young adult. Là, on est quand même sur des personnages qui sont assez jeunes. Ils ont 18-20 ans. Ouais. Pat Smut, c'est Close Door. Moi, je me suis vraiment tapé des barres.
Oh, j'ai trouvé ça tellement drôle.
Oh là 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 là, elles m'ont fumé de rire. Mais les deux petites sœurs, elles m'ont fumé ma race de rire. Vraiment, j'ai rigolé, C'était trop bien. J'ai trop kiffé ça. Genre le côté, l'humour avec les sœurs, j'ai trouvé ça, mais trop, trop bien. Vraiment trop bien. Et puis, Nolan, on l'aime bien, quoi. Genre, Nolan, on l'aime bien.
En plus, il est tellement, genre, nonchalant.
Ah ouais, j'adore.
Mais genre vraiment, il dit tellement de vérité et genre il est là genre, bah ouais.
En fait, c'est quelqu'un qui est juste hyper nature-peinture, mais direct. En fait, il va pas se prendre la tête à se dire il faut que je mette ça. Non, en fait, il dit les mots comme ils lui viennent, il dit exactement ce qu'il pense, comme ça lui vient. Il n'y a pas de faux-semblant, il n'y a pas d'hypocrisie, ou il n'y a pas de... Même j'essaie de faire paraître des choses, je suis juste là et en fait, je suis honnête et genre, qu'est-ce que tu me fais paillèche ? Genre, je vais juste dire ce que je pense et basta. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant.
Puis en plus, leur relation est si douce, mais il y a un tout petit peu de piquant, genre parce qu'ils aiment trop se lancer des piques. Mais leur relation est vraiment très douce et j'ai trouvé que ça se déroule d'une façon assez fluide. Mais moi, je pense que j'aurais pu m'attacher beaucoup plus à la romance si je n'avais pas eu une impression d'insta-love dès le départ. Parce que c'est vrai que, en fait, vu que Mallory bat Nolan aux échecs et que lui, il n'a jamais été battu, il est en mode genre. Ok, tu m'intéresses. Et j'étais un peu en mode genre, ouais, elle t'intéresse juste parce qu'elle t'a battu aux échecs ou... Et du coup, au début, j'étais un peu en mode genre, c'est sympa, mais en fait, après, je pense que c'est toute l'histoire de Mallory, moi, qui m'a vraiment genre hyper touchée.
Ouais.
Et je trouve que, pour le coup, tu sais, t'as vraiment les trucs de rom-com où tu t'es centrée sur le couple, et après, t'as les trucs de romance contemporaine où t'es plus centrée sur l'histoire des personnages. Et pour moi, c'était vraiment le cas là où tu as vraiment un truc avec Mallory et je me suis hyper identifiée à elle, en fait. Et elle m'a énormément touchée. Et vraiment, je pense que c'est
un truc... Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Mallory, en fait, il y a une histoire avec son père. On ne va pas vous spoil parce qu'il y a des choses qu'on est censé apprendre après. En gros, son père n'est plus présent dans le foyer au moment où l'histoire commence. Elle a deux petites sœurs et une maman qui est malade, qui est très, très, très malade. Voilà, qui l'empêche de travailler. Je sais plus si c'est un cancer ou un truc comme asthme. Enfin, en tout cas,
ah, moi, c'est le seul truc, d'ailleurs, j'ai trouvé, c'était un peu dommage qu'on ne nous nomme pas, parce qu'elle est censée avoir une maladie chronique, mais on ne sait pas ce que c'est comme maladie. Et j'ai trouvé c'est un peu dommage qu'elle ne le nomme pas. Mais bon, c'est juste un petit détail. Hein.
Bah, du coup, sa mère a une maladie chronique. Et du coup, en fait, Mallory, qui est une tête de ouf, qui était passionnée d'échecs, qui joue avec son père, qui aurait pu avoir une très belle carrière dans les échecs, bah, en fait, elle abandonne un peu tout. Elle va pas à la fac. On arrive à la fin du lycée. Avant la rentrée pour la fac, elle décide de pas aller à la fac, de trouver un job. Et en fait, c'est elle qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, elle prend vraiment le rôle de chef de famille. En fait, elle prend le rôle que son père aurait dû avoir à un âge qui est 18 balais. Et c'est vrai que tu vois la pression qu'elle se met, en fait. Et il y a des choses qui me paraissaient, en plus. Donc, je pense que je manquais d'empathie. Moi, je disais, mais tu réfléchis, genre, non, pas du tout. Mallory, personne n'a pensé ça. Ou genre, pourquoi t'agis comme ça? Et en fait, c'est après où tu te rends compte que quand t'es deep down dans cette espèce de situation dans laquelle elle était, en fait, ça fait que t'as pas le choix, un peu, tu sais ce que je veux dire, de voir la situation comme elle la voyait et la pression qu'elle se mettait. Et je l'ai trouvée, mais trop touchante. Moi aussi, j'étais en mode. Et parfois, ces sœurs, j'avais envie de les saigner. J'étais en mode, par contre, je vous êtes.
Non, mais ça, pour moi, la plus infernale, c'était Sabrina.
J'ai claqué la tronche, là. J'étais trop vénère. Après, elles m'ont trop fait rire et je les ai quand même kiffées. Mais à un moment donné, elles m'ont trop gavé, ces sœurs.
Non, voilà. De ouf. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc aussi avec Mallory, c'est. Je pense qu'à partir du moment où t'es l'aînée de la famille, tu peux t'identifier à elle. Genre, vraiment, il y a un truc. Ouais. Même s'il y a. Si tu mets de côté, genre, le fait que son père n'est plus dans le foyer, etc., il y a un truc qu'on incombe vraiment aux aînés de la famille. Et en vrai, c'est un vrai poids sur les épaules, mais qui est très inconscient. Et qui se fait malgré nous et malgré les parents. Hein, c'est pas forcément de leur faute. Mais je pense, sincèrement, en tant qu'aîné, genre, tu peux que. Enfin, vraiment, tu peux que t'identifier à Mallory si t'as des petits frères ou des petites sœurs. Vraiment. Mais c'était vraiment trop bien. Moi, j'avais mis 4,5. Vraiment, j'ai trop kiffé.
Ouais, moi aussi, j'ai mis 4,25. Après, il y avait juste un point que je disais où j'ai eu un peu de mal. Et moi, c'est vrai que Mallory, du coup, je trouve que c'est un personnage qui est dépeint comme très libre sexuellement. Elle a des coups d'un soir partout. Et c'est vrai que moi, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Il y en a qui étaient d'accord avec moi quand j'en ai parlé sur Insta. Mais c'est vrai que moi, je la trouve très jeune. En fait, je trouve que c'est très jeune pour avoir une sexualité aussi libérée, 18 ans. Parce que t'es quand même au lycée. Je trouve, moi, au lycée, t'es quand même encore très gamine, quoi. Enfin, genre, t'as encore.
Ouais, après, moi, ça m'a pas choquée.
Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu nuancé par le fait que. Elle a acquis une maturité malgré elle de chef de famille qui fait que. C'est un peu contrebalancé par ça, mais
en fait, c'est, pour moi, tu vois, genre, il y avait pas forcément de sujet là-dessus parce que l'autrice n'en fait pas un sujet et surtout qu'elle présente pas. En fait, si pour moi l'autrice elle présentait la sexualité de Mallory comme étant malsaine et qu'elle avait que tu vois elle se tapait des coups d'un soir parce qu'il y avait un problème et qu'elle essayait de combler autre chose, là je serais en mode pourquoi t'en fais pas un sujet, pourquoi tu n'en parles pas, alors que là pour moi c'était tellement sain où j'étais juste en mode moi je vois le sexe juste pour le sexe et je veux pas avoir de relation.
Mais en fait c'est quand même lié à sa peur de l'attachement, en fait. Enfin, moi je trouve que si tu prends le temps de l'analyser par rapport à son personnage, son développement et sa construction, ce rapport là à la sexualité il est aussi lié parce que par rapport à son histoire familiale elle veut pas s'attacher, en fait. Il y a quand même un lien,
je vois ce que tu veux dire.
Et la vision qu'elle a de l'amour de par le mariage de ses parents, etc. etc. Ouais. Je veux dire. Bon, après, moi, c'est moi qui l'ai analysé. J'aurais aimé que ce soit plus mis en avant, du coup, cette analyse-là. Mais après, voilà. Après, je ne sais pas si tu as un autre roman. Mon ordi va s'éteindre dans 5 minutes. Mais
Oh my god! Je vais essayer d'aller très vite. Parce que moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Plein Ciel. Donc, il y a un roman qui vient de sortir chez Big Bang de Siècle Vaelban. Oui, je sais, c'est un nom compliqué pour l'autrice. Et vraiment, énorme coup de cœur. J'ai jamais vu un monde aussi original que ça. C'est vraiment, en fait, on est dans un opéra où, en fait, l'opéra dicte un petit peu, enfin, fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que si la représentation dans l'opéra est bien faite, il va pas y avoir de problème dans la société. Si la représentation, il y a un truc qui se passe pas bien, va y avoir 15 000 catastrophes. Okay. Et en fait, on suit Ivoire, qui est du coup une albinos. Et ça, c'est un vrai sujet parce que justement, en fait, tous les personnages sont noirs et elle, c'est une albinos. Donc, il y a vraiment genre un vrai sujet là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que... Après, c'est un peu compliqué de se positionner là-dessus parce que ben, moi, je suis une lectrice blanche. Donc, en fait, je ne peux pas dire si la représentation et si la caractérisation des personnages noirs sont bien faites, sachant que l'autrice est blanche aussi. Mais moi, j'ai trouvé que pour le coup, Elle ne comparait pas la couleur de peau au chocolat, etc. Pour le coup, dès qu'elle introduisait un personnage, c'était tous les personnages qui... Il y avait une mention de leur couleur de peau.
De peau, c'était pas que les personnages noirs, ouais, très bien.
Et sachant qu'il n'y a pas de personnage blanc en plus, hein. Il y a vraiment zéro personnage blanc. Et du coup, c'était vraiment... Pour moi, c'était plutôt bien fait, puis surtout qu'elle emploie des mots, elle dit vraiment genre la peau noire, ou alors elle dit brun, ou alors elle fait des comparaisons, mais qui sont pas genre liées à la nourriture, tu vois.
Ouais, ouais.
Et ça, pour moi, c'était... J'ai pas envie de dire c'est bien foutu, parce que j'ai pas envie de... Moi, je peux pas... Je pense qu'avec mes biais de blanche, je peux pas le...
Oui, mais en tout cas, de nous, ce qu'on a déjà spoté, qui nous dérangeait en tant que blanche, déjà, on va dire qu'on a... que ce pan-là, il est respecté. Après,
et puis surtout, après, j'ai eu la conversation avec Zozo et Amanda. Donc, si vous ne savez pas qui sont Zozo et Amanda, ce sont des femmes noires. Et du coup, j'en ai surtout parlé beaucoup avec Zozo en lui montrant des exemples et tout. Et elle m'a dit, genre, je veux lire le livre. Donc, et y a vraiment un truc où Ivoire, comme elle est albinos, elle est complètement discriminée par ça. Et moi, il y a un truc qui m'a vénère, c'est que je suis allée sur Goodreads et j'ai vu une chronique qui disait que c'était du racisme anti-blanc. Et j'étais là, il n'y a pas à mettre les discriminations des albinos comme du racisme anti-blanc.
Oh
c'est
là
pas possible.
Là
c'est pas possible. Non, mais surtout qu'en plus...
Non, mais surtout qu'en plus,
je pense que ce lecteur ou cette lectrice était un peu en mode, je veux dénoncer qu'il y a des propos de racisme anti-blanc alors que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et j'étais là, genre... Mais en fait, c'est discrimination à d'albinos. Genre, il y a zéro racisme anti-blanc, quoi. Je veux dire, l'autrice, elle fait pas du tout ça. Et justement, je trouve que c'est plutôt bien foutu, sachant que les albinos, dans certains pays, vivent de réelles discriminations.
Mais même les discriminations, c'est même plus que la discrimination.
Ils sont persécutés, même
utilisés pour des rituels et tout. Hein. Il y a des trucs qui sont très...
Ben justement, Kali, qui a aussi lu le bouquin, elle m'a dit parce que Kali elle est dans le social et elle m'a dit qu'elle a accompagné une maman béninoise et en fait son fils était albinos et elle pouvait pas retourner au Bénin parce que justement elle disait bah, en fait mon fils risque de se faire pendre donc ouais. En fait elle pouvait pas retourner au Bénin mais bon tout ça est très enfin moi je trouve que c'est assez bien foutu et il y a vraiment une ambiance à la passe miroir.
Ah, trop bien, tu me donnes trop envie de le lire.
Genre vraiment mais meuf je te dis le monde la magie et tout genre.
T'as dit chez qui c'était édité?
Chez Big Bang, donc Brajlon.
Ok.
Et c'était... Le livre est super beau, le relier.
Ouais, il est magnifique, je l'ai vu passer.
Il est magnifique. Et vraiment, genre, ça a été un tel coup de cœur pour moi. T'as la plume qui est d'une richesse, mais folle. Et je trouve qu'en young adulte, ça devient rare où on est trop habitué aux plumes pauvres.
Ouais.
Beaucoup trop, banal. Et là, c'est pas du tout le cas. T'as vraiment une plume qui est super riche. T'as une intrigue qui est incroyable. Des rebondissements exactement là où il faut. Vraiment, mais genre, des plot twists, et ça redonne un souffle à l'intrigue, mais au bon moment. Et j'ai eu un tel attachement aussi au personnage, comment il parle, etc. Pour moi, ça m'a fait beaucoup penser à la passe miroir, parce qu'il y a du vouvoiement, etc. Et puis, t'as tout un truc avec la magie aussi, où c'est très lié avec leur métier à l'opéra. Genre, par exemple, Ivoire,
stylé, cet univers de l'opéra, là.
Ivoire, c'est une dompteuse de rubans. Tu vois, elle s'occupe que des rubans. Et ils sont tous en fait liés à leur métier où t'as tous les costumes, genre ceux qui sont experts en fil, t'as ceux qui sont experts en jupons. Et c'est tellement stylé. Puis t'as toute une intrigue sur l'opéra, toute une intrigue sur le monde, etc. Où le monde il est tellement bien foutu, mais tellement bien foutu. Et surtout entre chaque chapitre, en fait t'as un truc qui est hyper bien. C'est que tu as une recontextualisation en fait du monde où c'est comme parce qu'il y a des ordonnances en fait dans ce monde-là et en fait c'est comme si tu avais un petit livret pour être où on te dit genre la définition de tel truc etc et entre chaque chapitre on te fait ça et c'est super bien foutu. Puis tu as une histoire de révolution aussi tu as un truc de royauté avec qui dirige l'opéra etc. Les antagonistes sont super bien foutus, ils sont pas tout blancs ou tout noirs, et ça va couper.
Mais je peux relancer l'ordi et on finit si tu veux pour faire... T'as une dégustation de thé ou pas toi?
Ouais, moi j'ai un thé.
Vas-y, bah je redémarre l'ordi et on revient du coup avec la dégustation de thé juste après.
Easy. Plot twist, vous n'avez pas la dégustation de thé tout de suite car c'est la Sarah du futur, celle du montage qui est en train de vous parler. Et en fait, on a oublié avec Lola, on était en plein dans le rush parce que son ordi allait s'éteindre. Du coup, on a oublié que, évidemment, entre la discussion et la dégustation, eh ben, il y a le Smarty des prochaines sorties. Donc, je vous lance ça tout de suite et après, évidemment, vous retrouverez la dégustation de thé. C'est l'heure de votre moment trimestriel préféré. J'ai nommé le Smarty Flash Info concernant les sorties d'avril, mai et juin. On commence avec la fantasy. Rajo traduira la nouvelle saga de Brigitte Kemmerer, l'autrice d'Un sorcier noir et éternel, revient avec une nouvelle trilogie, Défier la nuit, le 3 avril. À la même date, chez Hachette, on aura Esprit rebelle de Maggie Stiefvater, un retelling du Disney rebelle. Ça se dit Maggie Stiefvater ou Stiefvater ? Ça me semble très étrange. Bref, je continue. Chez Sabran, des éditions de Saxus, on aura le 4 avril une nouveauté de Chloé Gong, l'autrice de Ses plaisirs violents avec Désir mortel. Et toujours le 4, toujours chez de Saxus, sortira L'ascension d'une héritière de Chloé C. Panyaranda. Lumen sortira à la même date une édition collector des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Et c'est d'ailleurs ma lecture en cours si vous voulez tout savoir. Le 10 avril, Brajlon traduira The City of Stardust de Georgia Summers, une sortie qui était pas mal attendue côté anglophone. Trois sorties simultanées le 11 avril. Chez Gallimard Jeunesse, on aura un retelling féministe de Méduse intitulé Méduse, tout simplement, de Jesse Burton. Chez GovStream, cette fois, sortira Fleur de cendre de Sarah Delisle. Je pense que ça se prononce Delisle vu que c'est à la française, mais il y a un Y. Donc je ne suis pas sûre, ça se trouve c'est Delisle. Je ne sais pas du tout. C'est donc un roman plein de sororité. Et chez De Saxus, on aura le nouveau Cassandra Clare, Les chroniques de Castellane. Slalom sortira un nouveau Ariel Holz qui s'essaie à la romantésie avec Magie et Sentiments le 18 avril. Et alors préparez-vous, parce que Divine Rivals débarque en France le 2 mai chez De Saxus. Notez bien tous la date. Lisez cette duologie, vraiment, j'ai très peur de la traduction. Mais vraiment, lisez cette pépite. Le 15 mai, Brajlon traduira une nouvelle saga d'Anna F. Witten, l'autrice de For the Wolf, qui s'appelle The Foxglove King. Je l'ai d'ailleurs dans ma palle en VO depuis presque un an. Est-ce que ce serait pas l'occasion de le lire par hasard ? Et si vous voulez un retelling de La Petite Sirène, Rajo sortira le 15 mai Sing Me to Sleep de Gabby Burton. Et si vous voulez rester dans l'univers marin, à la même date, il y aura L'Archipel des Dieux d'Amy Kaufman qui sortira chez Casterman. Le 30 mai, De Saxus traduira One Dark Window, une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. C'est une duologie que je vous conseille vraiment. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et je vais d'ailleurs bientôt lire le tome 2. Le 5 juin, on aura une nouvelle saga chez Big Bang, Curious Tides de Pascal Lasselle. Pour finir avec les nouvelles fantaisies, il y a plusieurs sorties de prévues en juin chez De Saxus. Mais comme elles n'ont pas encore été annoncées, les dates risquent de bouger. Donc le 6 juin, vous retrouverez peut-être, ou peut-être plus tard, Afza Faisal avec A Tempest of Tea. Le 13 juin, A Study in Drowning d'Eva Reed, que j'ai lu d'ailleurs et que j'ai bien aimé. Et The Familiar de Leigh Bardugo le 13 juin. Mais comme je l'ai dit, ces dates peuvent bouger. En ce qui concerne les suites de saga, le troisième tome de La Fille du Roi Pirate de Tricia Levenseller paraîtra chez Hugo Stardust le 3 avril. Il s'agira d'une nouvelle intrigue avec des persos secondaires qui deviennent principaux dans cette suite. Le 17 avril, vous retrouverez Oren dans le tome 5 de la saga d'Oren avec Gold de Raven Kennedy chez Hugo Roman. Lumen traduira la suite de Lightlark Nightbane d'Alex Astor le 18 avril et le 24 avril, vous aurez la suite de L'Engrangetant de Nell Pfeiffer, Les Heures obscur à retrouver chez Hachette. Le 2 mai, Brajlon sortira la suite de Dark Shores, Dark Skies de Daniel L. Jensen dans la collection Big Bang. Le 6 juin, Manon Fargeton reviendra avec le tome 2 de sa saga Le Cycle des Secrets chez Gallimard. Et enfin, le troisième tome de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber, A Curse for True Love, devrait sortir le 27 juin chez De Saxus. Côté romance maintenant, The American Roommate Experiment, le tome compagnon de The Spanish Love Deception d'Elena Armas sortira le 3 avril chez J'ai lu. À la même date, on aura Dunbridge Academy de Sarah Sprinz chez Hachette, une romance avec un soupçon d'enquête qui se déroule dans un internat à Édimbourg. Le 2 mai, petit shot de sortie romance. Chez BMR déjà, on aura le tome 2 d'Icebreaker, Wildfire d'Anna Grace. Chez Hauteville, on aura Love Theoretically d'Ali Hazelwood. Et chez Eden édition From Look of With Love de Mariana Zapata, qui est franchement assez drôle et vraiment quel slowburn de qualité. Le 7 mai, on aura chez Akata L'amour de la mec à Medina de SK Ali. Et le 19 juin sortira le 3e tome de la saga Seasons de Morgan Moncomble, Un été pour te retrouver chez Hugo. Au niveau maintenant des contemporains et historiques, La première rose de Bloomstone Manor de Marie Orcard, le préquel de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, sortira chez Casterman le 3 avril. Le 4 avril, Slalom traduira Girls Bazaar de Rushira Gupta, un récit se déroulant en Inde dans un foyer pour jeunes filles qui apprennent le kung-fu. Maëlle Dessart sortira un nouveau roman chez Slalom aussi le 7 mai, Bread Z Break, et à la même date, on aura a priori Yellow Face de R.F. Kuang chez De Saxus. Le 16 mai, PKJ traduira The Agency for Scandal, le dernier Laura Wood, l'autrice de Sous un ciel d'or. Personnellement, je l'ai lu celui-là, The Agency for Scandal, et vraiment, c'était pas mal du tout. Et enfin, Casterman sortira le 5 juin, le dernier Holly Jackson, Five Survive. Concernant les graphiques, le 2 avril sortira une nouvelle saga de shoujo You're My Soulmate chez Pika Édition. J'ai déjà feuilleté quelques planches en anglais et je peux vous dire que ce shoujo promet. Le 24 avril, tenez-vous bien, il y aura la sortie du 3e tome de Lightfall, aka le meilleur roman graphique de tous les temps, écrit par Tim Probert, qui sera d'ailleurs en dédicace pour 4 dates en France fin avril. Si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller voir sur l'Insta de Gallimard BD. Et enfin, Laure Olympus reviendra le 15 mai pour un tome 6 chez Hugo. Et on finit comme d'habitude avec un bref aperçu du côté de la VO. Le 2 avril, on aura la nouvelle rom-com de Sarah Adams, The Rule Book. Le 9, Leigh Bardugo sortira son one-shot The Familiar. Le 23 avril, ce sera le retour d'Emily Henry avec Funny Story. Et je prédis que ça va pas être si funny que ça. Le 7 mai, Carly Fortune nous présentera sa romance d'été, This Summer Will Be Different. Le 11 juin, on aura Not In Love, un nouveau Ali Hazelwood. Et enfin, le 20 juin, Laura Wood s'essaiera à la rom-com avec Under Your Spell, une romance avec une rock star et une meuf qui s'appelle Clémentine. Voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. En tout cas, j'espère que parmi toutes ces sorties, vous trouverez votre bonheur.
Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour.
Donc, de retour après cette pause impromptue, enfin pour vous du coup pas vraiment impromptue parce que c'est juste la dégustation de thé.
En plus, heureusement tu m'as arrêtée parce que moi la vérité, plein ciel, j'ai eu tellement un coup de cœur. Je pense que j'aurais pu en parler encore pendant 30 minutes. Mais vraiment, lisez ce bouquin.
On finit sur une bonne note et on finit avec tous l'envie de lire plein ciel.
Voilà. Surtout que je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant en fait. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et tout alors que... C'est vraiment un truc... Tu sais, je trouve qu'en ce moment, en langue adulte, je trouve qu'on manque d'originalité.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est un vrai vent frais, en mode on ne voit pas les mêmes intrigues, les mêmes mondes, avec des fées, etc. Et là, pour le coup...
J'ai très peu lu de fantasy, en fait, depuis le début d'année. Et je pense que c'est aussi parce que j'en ai tellement lu les dernières années. Déjà, parce que ça demande beaucoup de temps, je trouve, de lire de la fantasy, et que j'ai moins de temps cette année, forcément. Ouais, mais c'est vrai que, ouais, j'ai envie de quelque chose un peu nouveau. Là, j'ai dans ma palle Les Parfums de l'Impératrice, là, le tome 2. Tu vois, ça, c'était très, très sympa. J'ai très envie de lire la suite. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que ça mériterait un peu plus de nouveautés.
Lisez plein ciel, les amis. Lisez plein ciel.
Et du coup, le thé du jour que déguste en ce moment même Smarties dans une petite tasse renard tellement mignonne. Vraiment, on adore.
J'adore, je fais... Alors que je l'ai bu il y a une heure, tu sais.
Oui, mais là, ça te remet le goût en bouche. C'était là, moi, tu dis le parfum, tu te remets dans les sens, tu vois.
Mais alors, je sais, on cherchait un thé comme ça en automne dernier avec Éline, surtout quand on a lu. Je peux direct vous dire à quel livre j'ai pensé en plus, pour une fois.
Ah ouais, ah ouais.
En fait, dans Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber, donc Il était une fois un cœur brisé en VO, en VF, y a un personnage qui est Jax qui mange tout le temps des pommes. Et nous, notre but, quand le tome 3 est sorti en VO, c'était genre de se faire une petite ambiance, genre tarte aux pommes, thé à la pomme, etc. Sauf qu'on ne trouvait pas de thé à la pomme. Et c'est vrai que moi, comme je bois beaucoup, beaucoup de thé noir et très peu de thé vert parce que je ne suis pas très, très fan, en fait, la pomme, ça se marie surtout avec du thé vert. Et là, j'ai fait des efforts. Non, mais en ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dirigée vers le thé vert et j'étais en mode genre, ouais, c'est pas mal. Et en fait, figure-toi qu'après déjeuner,
pour la digestion, eh ben franchement, c'est pas mal du tout. Par contre, okay. le matin et au goûter, je resterai toujours sur du thé noir. Mais
Le matin, c'est du Earl Grey,
exactement. Mais là, du coup, je suis partie sur un thé, évidemment, de chez Café Lestra. Pour changer. Et du coup, c'est un thé qui s'appelle pomme verte cuite. Donc, c'est un thé vert. Mais c'est un thé vert qui est mélangé avec du thé blanc et du houlong. Et en fait, il y a des vrais dés de pommes à l'intérieur. Il y a des amandes effilées. Et il y a des arômes naturels pour faire ressortir vraiment la pomme. Et quand je te dis que ça a vraiment le goût de la pomme, ça a vraiment le goût de la pomme. C'est vraiment, moi qui cherchais un thé à la pomme, bah j'ai trouvé mon thé à la pomme. Et moi, je suis très, très contente d'avoir trouvé ce thé. Et il y a un truc assez gourmand, bah forcément, avec qui fait un peu tarte aux pommes au final, parce qu'il y a des amandes et tout.
Oh là 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 là, j'ai envie d'une tarte aux pommes.
Et du coup, c'est assez gourmand, mais ça reste en thé vert. Donc, ça reste assez léger. C'est pas comme les thés gourmands... thé du dimanche, etc., où c'est un peu plus de poids, je sais pas comment le décrire, mais tu vois, c'est un peu plus de tenue. Et le thé vert, c'est beaucoup plus léger. Et vraiment, j'ai trop kiffé ce thé. Je pensais pas l'aimer autant, mais si jamais vous voulez un thé pour aller avec Il était une fois un cœur brisé. En plus, ils sont juste devant moi là, mais si vous voulez un thé pour aller avec...
Chez toi, je le goûterais et si j'aime bien, je me le prendrais. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien aussi la pomme comme ça en thé, donc ça peut grave me chauffer. Moi, personnellement, dans mes dégustations du moment, de toute façon, je suis toujours sur ma super tisane d'allaitement que je bois 10 sachets par jour, j'en ai marre. Mais là, je file, j'ai rendez-vous à midi chez Violetta et Alfredo. Donc, je pense que
et pas Violetto et Alfredo.
Oui, là, pour la blague, je sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps Violetto et Alfredo. Je ne sais pas.
Mais moi, tu sais, je dis tout le temps Alfredo et Violetta. J'inverse.
Oui, mais ça encore, make sense, parce que c'est dur de s'en souvenir, tu vois. Mais genre, Violetto, ça n'existe pas, en fait. Alfreda, ça n'existe même pas. Je pense même pas un blast qui existe non plus. Donc, enfin, genre, quid. Bref, je sais pas. Mais du coup, je pense que je vais me prendre un petit thé sympatoche pour...
Mais tu sais que j'y étais la semaine dernière.
Ouais, avec Cali.
Ouais. Après, en fait, c'était vraiment genre sur le moment, parce qu'on cherchait un endroit où bouffer. Et vraiment, j'ai eu un éclair, le matin même, où j'ai dit, viens, on va chez Violetta et Alfredo. Sachant qu'elle n'y est jamais allée. Ah, tu t'es mis en situation.
Non, mais alors pas du tout. J'ai une dégaine en plus très classique, mais j'avais envie de mettre un petit nœud dans les cheveux histoire de. Et un petit nœud en boucle d'oreille histoire d'être toute pimpante pour aller
watcher. On est en mode OOTD. On n'est plus dans des recos livresques. On est.
Bah, on vous raconte notre vie finalement, mais de toute façon je suis en retard, donc autant vous dire que l'épisode a assez duré. On espère vous avoir donné envie de lire Plein Ciel, Check and Mate, Amari et Je suis leur silence globalement. Et le prochain épisode, c'est donc normalement, bah donc celui-là il devrait sortir dimanche, et le Exactement. Prochain ce sera donc 2 semaines plus tard, donc si tout va bien, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri de
changement. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec nous.
On est un peu bisextile, mais promis, on fait de notre mieux. Bon bah on vous dit merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Et dis comment Eileen pour une prochaine tasse de thé.